Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 20. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
En pleine forme après un week-end bien chargé au Magritte.
Tête dans le cul, mais ça va.
Tête dans le cul. T'es resté jusque tard, je t'ai vu danser sur la piste de danse, c'était chaud là.
Ouais.
C'était chaud.
Jusque 3h30, ça va.
Il y a Victor Polster aussi qui est assez chaud sur la piste de danse.
Chaud boulette.
Ah oui, très chaud boulette.
J'ai dansé entre Stan Konings et Fadila Lahnan.
Ah oui.
Alors, je peux te dire que c'est quand même une soirée mémorable.
C'était un peu RTBF exclusive. Enfin, quand même, la soirée, il y avait beaucoup de monde de la RTBF.
Ouais, moi, j'avais tous les animateurs qui étaient là, quoi.
J'ai fait la file pour un verre avec Benjamin de Senac qui s'impatientait, donc c'était sympa aussi, c'était marrant. Donc voilà, plein
c'est
de choses.
Bah, que veux-tu?
Mais oui, non, mais gentiment, hein, pas.
C'est
sympa. C'était vraiment très clair, tout le monde était là, c'était drôle, on se croirait dans la tribune, c'était presque ça.
C'était une très chouette cérémonie, d'ailleurs.
Oui,
enfin, on y reviendra.
Alex Vizorek a bien fait ça. On y reviendra, bien sûr, puisqu'on aura.
C'était très drôle, ouais.
Toute une section de cet épisode dédiée au Magritte. On repasse le palmarès en revue. Peut-être une ou deux petits extraits d'interviews également des lauréats. Puisqu'on était là de la soirée, tu étais là avec ton beau costard et ton beau micro, si vous avez vu les photos sur Instagram et sur Facebook. Voilà, c'était sympathique.
C'était très sympathique.
Programme de la semaine, revenons à nos moutons, revenons au cinéma. Trois films dont on va parler.
On était en train de parler cinéma.
Oui, mais tu sais...
Nous n'arrêtons jamais de parler cinéma.
Je fais que ça.
Cinéma.
Je me fatigue moi-même.
Cinéma.
S'il te plaît, chut. Pas copyright avec la première. Alors, donc, trois films aujourd'hui au programme. Escape Game, un film basé sur, forcément, c'est un nouveau film d'horreur basé sur un nouveau concept, hein, c'est-à-dire les fameux Escape Room. Deuxième film, c'est Work on a Otter, ça a l'air un peu moins drôle. On est plus dans un film vraiment là, si j'ai pu comprendre, qui avait été montré à Cannes à l'époque, ou pas du tout.
À Venise.
À Venise, je me trompe totalement, mais en tout cas.
Je vois que t'as bien préparé
j'ai
cette
bien fait...
émission.
Non, mais je sais que tu l'avais vu à un festival, je ne savais pas si c'était Cannes ou Venise, mais non, tu clarifies tout ça, c'est bien. Et troisième film de la semaine que j'ai vu moi, encore une fois, j'ai vu un film. Can You Ever Forgive Me avec Melissa McCarthy dans un film dramatique. What the fuck? Et c'est un peu l'ambition de ce film-là, on va en parler également. Mais, avant qu'on commence, je tiens à préciser que l'émission qu'on a fait en direct depuis les Magrits, l'avant-cérémonie, est disponible sur la page Facebook, sur YouTube également, puisqu'on a un compte YouTube Cinécast. Bah, allez écouter, maintenant c'est un peu tard, hein, comme on a après le sujet, mais c'était toujours très sympa. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté, d'avoir cliqué.
En si grand nombre.
En si grand nombre, puisque vous êtes plus de 2000-2500 à avoir écouté l'épisode, donc props.
Merci.
Merci, c'était aussi fort que le Super Bowl. On passe tout de suite au box-office. Alors, résultat du box-office français du coup. Avec la bonne nouvelle de la semaine, je pense que Thibaut est très content. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et premier au box-office français avec 2,2 millions d'entrées. Je répète bien, 2,2 millions d'entrées. C'est beaucoup moins hein, que le premier épisode qui avait pratiquement atteint les 4 millions d'entrées la première semaine. Mais bon,
c'est toujours de trop.
Oui, je pense que c'est toujours de trop. Mais c'est un très gros démarrage. À mon avis, il y a de fortes chances que ce soit le plus gros film de l'année 2019. Bon, on verra.
On verra.
Deuxième film, c'est... The Mule, ou La Mule, 430 000 entrées en France pour sa deuxième semaine, donc il dépasse le million d'entrées, c'est un très bon score pour un film de Clint Eastwood.
C'est un excellent score pour Clint Eastwood.
Exactement, donc voilà, bien joué. Troisième film, c'est Minuscule, Les Mandibules du Bout du Monde. Alors ça, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais je suppose que c'est un film d'animation.
Mais oui, c'est le deuxième Minuscule. Tu connais pas le petit dessin animé Minuscule?
On n'en avait pas parlé, il est pas encore chez nous.
Non.
Ok. Green Book, quatrième, un excellent film dont on vous parlait récemment. 245 000 entrées en France, ça fait 500 000 entrées au total, un peu plus. Hein. Donc, de nouveau, une belle performance pour ce film, plus dramatique, plus d'auteur, plus, entre guillemets, à Oscar. Et le cinquième film, c'est Glass. Glass avec 180 000 entrées, qui a du coup dépassé le million d'entrées en France. Un bon score pour un film qui n'est pas un film, on va dire, de super-héros. Hein. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais c'est pas 100% un film de super-héros, qu'on se le dise. C'est quand même un film où il y a plus de jugeotes que quelqu'un qui balance une bagnole dans le ciel.
Oui.
Oui, c'est pas ça, quoi. C'est pas Hulk.
Voilà. Mais ils essayent pas de faire croire que c'est un film de super-héros, justement. Ils le vendent comme un truc anti-super-héros. Mais...
Exactement.
Voilà.
Donc voilà. Mais du beau monde. Bon, du beau monde. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, quoi. Mais je suis pas sûr que cette semaine ça va changer dans le top. Je crois qu'il va rester numéro 1, malheureusement. Mais on a quand même des films intéressants dont on va parler. On va d'abord parler du premier, hein, qui est l'espèce de puissance marketing venue d'outre-Atlantique. L'idée, prendre des jeunes dans un escape room, 6 inconnus pour être plus précis, qui se retrouvent dans des circonstances qui échappent à leur contrôle et doivent utiliser leur ingéniosité, non pas pour trouver la porte, mais pour survivre, tout simplement.
Oui. C'est déjà le deuxième film qui utilise ce concept qui sort dans nos salles. Parce que, alors, ici, ils ont retitré... Le titre original est Escape Room. Mais, alors, je pense que c'était l'an dernier, ou peut-être il y a 2 ans, il y a déjà eu un film qui s'appelait Escape Room qui est sorti. Qui était une purge assez phénoménale et dont je n'ai quasiment aucun souvenir d'ailleurs. Donc, pour la sortie ici, ils l'ont retitré, pour ne pas confondre avec l'autre purge. et ils l'ont retitré en Escape Game.
D'accord.
Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement le concept des Escape Rooms, c'est un jeu dans lequel il y a en général 2, 3, 4 pièces,
oui,
desquelles il faut pouvoir s'échapper.
Des indices, etc.
Via des indices, etc. Donc on passe de la première pièce à la deuxième et ainsi de suite.
En fait, c'est un Cluedo géant, sauf qu'il faut trouver une clé. En fait, c'est un peu Fort Boyard.
C'est,
mais...
c'est Fort Boyard, c'est Cluedo.
c'est un mélange de tout ça.
C'est très chouette. Il y a souvent des thèmes.
Sherlock Holmes, des trucs comme ça, oui.
Plein de trucs comme ça. Indiana Jones. Enfin, bref,
parfois lié au cinéma.
Plein de thèmes qui existent. Donc,
même souvent lié au cinéma, d'ailleurs.
Oui, bah oui, bien sûr.
Très souvent.
Donc, c'est très chouette à faire. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Mais voilà, essayez de trouver la bonne formule. Et vous vous amuserez. Parce que c'est très chouette. Voilà.
Mais du coup, est-ce que c'est pareil que le film ?
Ben, forcément, quand tu connais le principe d'une escape room, tu comprends vite que c'est un lieu et un principe génial pour faire des films d'horreur.
Oui, à petit budget, bien sûr.
Bah oui, à mon avis, le budget de celui-ci ne doit pas être si petit que ça, parce qu'il y a quand même des choses assez impressionnantes dans le film. Mais oui, c'est un film qui, a priori, demande un peu moins de... qui peut demander moins de moyens.
Disons qu'il y a un concept tout trouvé pour avoir des cadavres, je veux dire... gens enfermés dans une pièce avec une seule issue, bah, ça fait un peu penser à Saw, hein, à l'époque.
D'une certaine façon, ouais.
Ou à Hostel.
C'est vrai. Ça fait penser au premier Saw, surtout. Les autres, un peu moins, parce que ils savent bien qu'ils sont... Enfin, dans Saw, tu comprends très vite qu'ils vont... ils vont mourir, ils sont pas là de leur plein gré. Ici, dans Escape Game, bah, ce sont des gens qui arrivent et qui pensent participer à une vraie escape room, tu vois.
D'accord.
Et puis,
des grands innocents, quoi.
Et puis les choses dégénèrent très rapidement et assez rapidement ils comprennent que...
ça va mal se passer.
Ouais. Qu'ils vont pas tous en sortir indemnes. Qu'il va y avoir des piles de morts avec du sang.
Et quoi, c'est donc comme dans le film Le Cube par exemple, c'est épreuve après épreuve, il y en a toujours un qui meurt, ou est-ce que c'est un peu plus aléatoire, ou est-ce que c'est entre eux aussi qu'il y a des rivalités qui...
Bah, bien sûr qu'il y a des rivalités entre les personnes. À un moment, tu mets 6 personnes dans une
condition
pièce,
de vie ou de mort, ouais,
c'est ça. Ils sont tous obligés de survivre. Enfin, il n'y en a qu'un, à peu près. Parce que c'est toujours très compliqué que tout le monde survive. Ils savent que les places seront chères, donc évidemment, il y a des rivalités. Mais on n'est plus. Alors, je ne sais plus si c'est exactement un par pièce, mais oui, globalement, c'est une mort par pièce.
D'accord. Donc du coup très classique.
Oui, très classique dans sa narration. Mm-hmm. Et en fait, il démarre quasiment par la fin. Tu vois la première scène en fait, c'est une scène de fin où tu vois un gars qui arrive tout seul dans la dernière pièce. Et puis qui ressemble à une espèce de bibliothèque. Et puis évidemment les murs bougent. Il va se retrouver écrasé. Et puis paf, t'arrives au début du film en fait. Enfin au début de l'histoire.
Donc, du coup tu sais dès le début pas trop... qui est le dernier.
C'est ça.
Ou la dernière.
C'est ça. Tu sais dès le début qu'il y a le dernier personnage qui arrive à la fin.
Ça casse pas un peu la surprise, hein ?
Alors, c'est ce qu'on peut se dire.
Mais il faut se demander comment ça se fait qu'il est arrivé là. Un peu comme un Columbo, tu vois qui est le tueur dès le début, mais...
C'est ça. Il y a ça, et puis ils ont quand même réussi à trouver une petite entourloupe pour que ce soit quand même un minimum intéressant. Parce que si tu montres directement la scène de fin, et puis tu... 2 jours avant, et puis tu reviens, tu vois chaque personnage,
c'est vite lourd.
Comment il se retrouve là, etc. Ça peut devenir lourd. Donc, la fin n'est pas complètement celle qu'on attend et qui est présentée dès le début, ce qui est plutôt agréable.
Mmh.
Les différentes pièces sont hyper balèzes. Clairement, t'as pas ça dans un escape room normal.
Escape room gros budget.
Où tout le monde est censé être vivant à la fin, non. Là, tu vois que c'est un mec qui a fait ça. Il veut du sang, il veut des morts.
Un pervers manipulateur. Ouais.
Et donc, c'est vraiment impressionnant, ce décor d'escape room. Après, voilà, le reste est très classique. Hein. Des gens, des morts.
Des puzzles et des morts.
C'est ça, des énigmes à trouver.
Mais du coup, est-ce que
résoudre.
C'est plaisant parce qu'il y a une surprise du point de vue des énigmes, il y a un peu ce côté, mais comment ça va se passer? Ou est-ce que c'est vite chiant et on se dit, bon, j'ai déjà vu ça 50 fois et il n'y a rien de neuf?
Un peu les deux.
Un mélange des deux.
Bah oui, parce que évidemment que tu sais comment ça se passe, t'as vite compris le principe d'une escape room. Tous les personnages se demandent pourquoi ils sont là, qui est derrière, s'il y a une logique, enfin tu vois. Donc ils ont tous des questions.
Qui pourrait leur en vouloir à ce point, quoi.
C'est ça, ils se posent tous plusieurs questions, auxquelles évidemment en tant que spectateur, t'as envie d'avoir les réponses aussi. Et auquel tu n'as pas toujours de réponse. En tout cas, dans l'autre film Escape Room, tu n'avais aucune réponse. Quoi. C'était vraiment juste... Maintenant, je commence à avoir des souvenirs de cet autre film. Tu n'avais vraiment aucune réponse. C'était du gros foutage de gueule. C'était vraiment, en fait... Il n'y avait aucune raison logique pour que tout ça se déroule, en fait. Tu vois, c'était vraiment des inconnus, une pièce, et voilà. Ici, il y a un peu plus de choses. C'est pas... T'as pas toutes les réponses non plus, parce que à mon avis, ils se disent que si ça fonctionne, suite.
Ils font une suite avec Kev Adams. Oh non, pardon, c'est pas le même film.
Arrête avec Kev Adams.
C'est un de nos films, on va en parler, je pense, dans une semaine ou deux.
De Kev Adams ?
Oui, un tout petit peu, mais brièvement.
Ah oui, ah oui. Non, là-dedans.
Oui, oui, oui.
Oui, je vois.
Tu vois, c'est pour ça là, je fais une référence.
Oui.
Okay.
Mais il est pas annoncé au casting du film, donc faut pas dire ça.
Heureusement.
Parce que c'est un peu le.
Quoi qu'il pourrait tester, hein, c'est le genre de film.
C'est
où...
le côté surprise.
C'est le genre de film où, justement, ça serait le genre de film où parfait pour aller faire un début de carrière aux États-Unis, une petite apparition dans un film comme ça.
Certes, mais il a déjà fait une apparition aux États-Unis. Là,
dans
le film
série,
avec. Non, le film avec Mila Kunis, là.
Ah ouais? Non, j'ai pas vu.
Si, l'espion malgré elle, ou je sais pas quoi.
D'accord.
L'espion qui m'aimait, ou je sais plus. Enfin, bref, soit.
Mon dieu.
Bref, Escape Room, voilà, Escape Game, très classique.
Voilà.
Ça fait le taf. C'est pas ouf.
Mais si on aime bien un bon petit film d'horreur,
voilà, on passe un petit moment,
c'est sympathique. C'est quoi, c'est plus gore ou c'est plus thriller, horreur allez.
C'est assez équilibré.
C'est équilibré.
Ouais.
On n'est pas non plus dans la massacre à la tronçonneuse, enfin, je veux dire.
Non, c'est pas Saw.
So. Okay.
Non, ça reste un film d'horreur entre guillemets grand public, donc voilà, c'est gentil. C'est pas mal, c'est pas ouf, c'est pas indispensable, mais ça vaut la peine. Enfin, voilà.
D'accord. Écoute, du coup, c'est 2 étoiles, quoi.
Une
oui.
pas déconner non plus, mais...
Une, d'accord. Bah, une pour Escape...
Ça fait le taf, tu vois, mais...
Escape Game, et non pas Escape Room, voilà.
C'est Escape
pas,
Game,
oui,
tout
hein,
à fait.
Faut pas confondre les deux, parce que si, par mégarde, vous êtes dans un cinéma qui diffuse encore Escape Room, si c'est possible d'en trouver en Belgique...
Non, je ne pense pas.
Vous allez tomber sur un mauvais film, et si vous êtes tombé sur un peu moins mauvais film. Voilà, c'est un peu ça le concept. C'est passable. Ok, bon, on commence en force, alors cette semaine c'est bien, je suis content. On va tout de suite démarrer par contre, enfin, revenir un petit peu sur les Magritte, et passer en revue les différentes catégories, qui a gagné, etc., et éventuellement vous mettre un extrait.
Ouais, alors, j'ai pas réécouté l'entièreté de l'émission que nous avions réalisée en live.
Comment ça?
Depuis le Square.
Moi aussi.
Depuis la cérémonie.
Moi aussi.
Mais, enfin, la présentation. Mais après coup, directement après, je me suis dit... J'ai eu le nez fin quand même, parce
je pense qu'on a...
j'ai pas dû faire beaucoup d'erreurs dans mes pronostics.
On n'a pas fait beaucoup d'erreurs, à part 2-3 catégories qu'on va passer maintenant en revue. Mais un petit mot quand même sur l'ensemble de la cérémonie, même si on a déjà touché un mot là-dessus. Bah oui, c'était quand même une belle réussite, je trouve.
C'était une très belle réussite.
Quelque chose de chouette, dynamique. C'est vrai que ça a envoyé du lourd d'un point de vue du rythme. Je trouve qu'ils avaient très bien travaillé ça. Et Alex, à mon avis, sera réinvité... Très probablement pour la prochaine édition.
Oui, mais il a déjà annoncé qu'il en faisait qu'une.
Ah merde.
Ouais, ouais, depuis.
Mais c'est vrai que d'un côté, c'est ça la magie aussi, c'est venir une fois faire un bon coup et puis se casser, quoi.
Après, peut-être qu'il reconsidérera la chose.
Oui, c'est ça. L'RTBF va lui proposer un meilleur salaire. Bref.
Mais effectivement, je serais clairement partant pour qu'il revienne.
Mm-hmm. Clairement, parce que c'était très drôle. Il a fait un très bon sketch d'intro.
On n'a jamais autant ri.
Ah oui, pendant 15 minutes. Hein. Les 15 premières minutes.
Ah, le sketch d'intro était parfait.
Hein. Était vraiment
et puis
très
d'autres,
drôle.
D'autres sketchs.
Et il n'y a pas été de main morte. Hein.
Les films Comment est-ce qu'on est nommé au Magritte, etc. Ouais, il y avait plusieurs sketchs très drôles. Donc, très très belle réussite.
Et quand il a fait la blague, moi je trouve qu'elle était un peu borderline sur Delphine, la fille du roi qui voudrait de l'argent et dire au prince Laurent, écoutez. Vous êtes un peu comme, vous êtes un peu comme le cinéma belge. Vous venez tout le temps demander de l'argent, un truc comme ça.
Vous trouvez que vous ne recevez que, oui, vous, ne, que vous ne recevez pas assez d'argent, oui.
C'est quand même lourd, ça.
Ouais, mais en même temps, bon, il sait qu'en bon, allant à ce genre de cérémonie, il va avoir une petite réflexion.
Mais oui.
Voilà, c'est
tout le monde
guerre.
Sait qu'il va se taper une blague. Hein, ça, c'est
en même
clair.
Temps, bon, il y a cette fameuse histoire avec son argent qui était gelé en Libye et qui veut récupérer. Enfin, bref.
Bon, voilà. On commence par la première catégorie, meilleur documentaire. Ni juge ni soumise. Alors là, c'était vraiment pas une surprise. On en avait parlé d'ailleurs de Jean Libon et Yves Vinant.
C'est ce qu'on avait dit. Hein.
C'est ce qu'on avait dit. Avec forcément Anne Gruet qui était là mais qui n'a pas pu s'exprimer, ça c'est clair. Pour des raisons évidentes.
Ce qui n'était pas plus mal, hein, comme oui. disait Alex Vizorek.
C'est vrai que, mais tant mieux parce qu'on vous a vu dans le film, on n'a pas envie de vous entendre. meilleur court-métrage de fiction, c'était Icare de Nicolas Boucard.
Et c'est ce qu'on avait dit, hein,
ça. On avait dit ça aussi. Meilleur court-métrage d'animation, c'était La Bague au Doigt.
Là, on n'avait rien dit parce que j'en ai
on
vu.
On pas vu. Ouais. Meilleur montage, c'était Nos Batailles. Je pense que tu avais dit ça aussi.
Je pense que j'ai dit Laisser bronzer les cadavres.
Ah oui, oui, c'est vrai. Meilleure musique originale, c'était Au temps où les Arabes dansaient. Ouais,
Simon
ça, on l'avait dit.
Simon Franquet. D'ailleurs, j'ai dit Simon Franquet pendant tout le podcast, mais c'est Simon Franquet.
C'est pas très grave. Je t'en veux mais, pas. Moi, c'est pas moi qui vais t'en vouloir.
Mais, non, ça, j'espère rien. mais il me semble que c'est ce que j'avais dit aussi.
Meilleur costume, Bye Bye Germany. Je pense que ça, c'était ce qu'on avait prédit également.
Je pense.
Un film un peu plus. Allez, il y a plus besoin de costumes dans ce film-là que dans d'autres. Meilleur décor, Laissez bronzer les cadavres. Je pense qu'on avait hésité entre ça et Bye Bye Germany.
Et c'est celui-là que j'avais plébiscité.
Oui.
Plus que l'autre.
Meilleur son, Laissez bronzer les cadavres également. Meilleure image, on continue dans Laissez bronzer les cadavres. Et là, c'était Manu Dacosse.
Ouais. Trois Magritte complètement mérités pour le film. Hein.
Tout à fait. Meilleur espoir masculin, on avait Thomas Mustin, ou Musti, hein, ça dépend comment vous voulez l'appeler, dans L'échange des princesses.
Je ne sais plus ce que j'avais annoncé, mais...
Je pense que tu avais dit... Léna Gérard-Voss dans Nos Batailles. Ça, c'était
là, je sais que ce n'est pas elle que j'avais dit. J'avais dit l'actrice de Tueur, la blonde.
Oui. Et donc là, c'était en effet la petite fille hein, qui est montée dès le début, la première à avoir gagné un Magritte ce soir-là.
C'était le premier Magritte remis.
Et puis, meilleur acteur dans un second rôle, là, tu l'avais prédit, hein, Harry Warthalter dans Girl.
Ouais. Ah bah, de loin, c'était
qui était brillant,
celui qui me paraissait le plus évident.
Tout à fait. Meilleure actrice dans un second rôle, Lucie Debay.
Oui,
dans Nos Batailles.
Je ne pense pas avoir dit ça non plus, parce qu'en même temps, elle a un petit... En fait, elle a un rôle hyper important, parce qu'elle joue le rôle de la mère qui quitte le domicile, quitte son mari et ses enfants. Donc elle disparaît assez rapidement du film, même si elle reste présente, enfin, son absence est là, donc on la sent quand même pendant tout le film, mais elle, physiquement, n'est plus présente. Donc voilà, c'est un choix qui se respecte, hein, cela dit, mais c'est pour ça que je ne pensais pas qu'elle gagnerait dans l'absolu.
Meilleur acteur, c'est Victor Polster, sans grande surprise, hein. Pour Girl.
Sans aucune surprise. Il a gagné un prix du meilleur acteur à Cannes dans la section Un certain regard. Donc, il a gagné d'autres prix du meilleur acteur par la suite. Donc, ce n'est que justice qu'il soit récompensé.
Clairement.
Au Magritte.
Meilleure actrice, c'était Lubna Azabal dans Tueur.
Je suis très content pour elle.
Oui, elle avait l'air très contente, très surprise d'ailleurs de gagner.
Oui.
Je me rappelle qu'elle avait enlevé ses chaussures pendant la cérémonie, donc elle devait monter sur scène avec ses chaussures en main.
J'ai pas trop fait attention.
Ouais, parce qu'elle réussissait pas à mettre ses talons, donc du coup, Alex a dit bah, viens en pieds nus, quoi. On a pas trop le choix.
Ouais.
Donc voilà. Meilleur scénario original ou adaptation, c'est Lucas Dont et Angelo Tysons pour Girl. Forcément, on va écouter hein, Lucas Dont dans deux minutes, parce qu'on va revenir à sa catégorie.
Ah oui, tu veux qu'on écoute qui d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on écoute machin, mais c'est enfin...
Non, mais je pense qu'on va écouter Lucas, forcément, parce qu'il a gagné également le prix du meilleur film flamand.
Ouais.
Mais avant d'y venir, il y avait juste le film meilleur film étranger en coproduction.
On a aussi des interventions de Lubna Azabal et de Victor Polster. Donc...
Oui, mais je pense que par gain de temps, peut-être on va faire Guillaume Senez et Lucas Dont, qui sont quand même les deux grands gagnants de la soirée.
C'est
clair et net. Bah oui, Lucas Daunt, meilleur film flamand, c'était la révélation de cette année hein, dans le cinéma belge.
Oui.
Il est encore très jeune, très sympa pour lui avoir un peu parlé après.
Et du coup, on l'écoute tout de suite.
On l'écoute.
J'ai toujours essayé de combiner et le français et le flamand. Toujours essayer de travailler avec les deux côtés de l'industrie. Donc pour moi, être récompensé ici au Magritte, qui est bien sûr plutôt francophone, ça me fait vraiment plaisir. C'est très fort et bien sûr ce soir parce que là nous sommes nommés 9 fois et j'ai le sentiment que toute mon équipe est vraiment... c'est une célébration de mon équipe et ça, j'adore ça.
C'était Lucas Daunt qui s'exprimait au micro de Thibaut Van de Werve.
Tout à fait.
Juste après avoir remporté son Magritte, parce qu'il en a eu plusieurs.
Un de ses Magritte,
oui, ouais, c'est ça.
Je ne suis pas interrogé à chaque fois.
On passe après au meilleur premier film, avant de passer à meilleure réalisation et meilleur film, puisque c'est le même gagnant.
Attends, parce qu'on en a sauté un.
Non.
Meilleur film étranger en coproduction.
Tout à fait. L'homme qui tue Don Quichotte.
Ouais.
Et on écoute tout de suite Terry Gilliam. Il n'était pas là, malheureusement.
Non, Terry, non.
Il n'était pas là. Alors,
meilleur premier film, peut-être.
Oui, on fait ça avant de passer aux autres.
Oui.
Et là, par contre, c'était un peu une surprise, je pense. Hein. On n'avait pas.
N'ayant pas vu ce film-là, je.
Mais à la base, on avait dit Girl, mais bon, ça aurait été un peu exagéré quand même. Ouais, Gigantoo, hein.
Qui fait assez doublé, oui. Non, Bitter Flowers d'Olivier Meis.
Qui est un film en mandarin.
Oui, c'est ça. Donc, que je n'ai pas vu, donc je ne vais pas commenter outre mesure.
Comme disait Alex, c'est très malin parce que du coup, 1,4 milliard de spectateurs potentiels, plus les 14 wallons qui vont se déplacer pour aller voir ce film.
C'était assez drôle, ouais.
Assez drôle. Ouais. Donc voilà, lui aussi un peu surpris de gagner, mais bonne nouvelle. Et puis bon, ben là.
Meilleure réalisation, meilleur film, No Bataille de Guillaume Senès.
Guillaume Senès qui remporte haut la main ses Magritte du cinéma. Avec Lucas Daunt à côté de lui, bien sûr. D'ailleurs, ils ont fait une chouette photo, hein. Ils sont pris dans les bras à deux ensemble.
Tu as pris une fabuleuse photo.
J'étais sur le vif.
Au moment parfait.
Exactement. Ils se prenaient dans les bras et disponible sur Instagram et sur Facebook pour aller voir. Oui. Très touchant. On voyait qu'ils étaient vraiment heureux l'un pour l'autre. Et tu as eu Guillaume Senès à ton micro.
Oui. On l'écoute tout de suite.
C'est un regard sur les répercussions du monde du travail d'aujourd'hui, sur la famille, sur l'intime, sur le social. Et c'est un film qui essaie de partager d'abord une émotion. Voilà.
À qui vous le dédiez, ce trophée ?
Eh ben à toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à faire ce film, tout simplement. C'est un travail dans la collectivité. C'est un peu un sport collectif de faire un film. Donc, c'est un peu à tous les gens qui m'ont aidé à être ici aujourd'hui que je dédie ce prix.
Voilà, c'était Guillaume Senès, très content d'avoir remporté ses Magritte, hein, ce soir-là, quand même.
Oui, voilà. Il avait déjà gagné des prix, alors je ne sais plus combien de Magritte pour Keeper, son premier film. Mais là, on l'a dit et répété, il a passé un palier avec
élevé son
en
jeu
terme de la, en termes de mise en scène avec No Bataille. Donc clairement, c'est une ascension
fulgurante.
Au moins tout
et,
ça.
Et jeune de nouveau, hein, il est assez jeune encore, donc c'est sympa. On voit Lucas Daunt, Guillaume Senès, on se dit tiens, on a un cinéma belge qui prend la relève. Hein, je veux dire, bon, forcément, le jour où les Dardennes vont faire un film, il y a de fortes chances qu'il soit Magritte, mais. C'est pas dit qu'on ne retrouve pas un Lucas
Daunt. Les Dardennes sont rarement les grands gagnants au Magritte. Hein.
Oui. C'est peut-être parce que c'est le choix évident. Enfin, voilà, si on récompense tout le temps.
Oui, mais les Dardennes sont mal aimés chez nous. Va savoir pourquoi.
Tout à fait. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter sur la cérémonie de Magritte ? Je pense qu'on a fait le tour. Si ce n'est qu'on peut mentionner un petit big up à François Damien, qui est reparti bredouille pour la 7e fois.
6 ou 7 ?
7.
7e fois.
7e fois,
oui. On a fait édition des Magritte, c'est quand même pas mal.
Je suis pas sûr qu'il reviendra la prochaine fois.
Hein. Non. Mais, alors, on n'est plus sur les Magritte là, mais on est toujours dans les cérémonies. Hier soir, il y a eu les Lumières. Donc, ce sont l'équivalent des Golden Globes en France, donc remis. Sont des prix remis par la presse.
C'est pas d'ailleurs les globes de cristal ou un truc comme ça qui gagne.
Ah, je sais pas exactement à quoi ressemble le trophée, mais la statuette. Mais voilà, ça s'appelle les prix Lumière. Les frères Sisters, ça a raflé pas mal de prix, meilleur film, meilleur réalisateur. Meilleure photo pour Benoît Deby. Quand même, un Belge qui a gagné.
C'est pas mal, et surtout qu'il est nommé au César également.
Il est nommé au César également, donc c'est. Les Lumières sont pas toujours indicatifs, hein. Mais par exemple, Élodie Bouchet a gagné le prix de la meilleure actrice pour Pipi, prix qu'elle avait déjà gagné au FIF, par exemple. Donc voilà.
Pas mal.
Et Girl a gagné le prix du meilleur film francophone. Donc j'imagine que c'est un film qui est juste pas français.
C'est vrai qu'les francophones, ils parlent un peu français aussi dans le film.
Oui, alors ils parlent mieux français que toi.
Hein. 50-50.
Ils parlent pas comme ça. Hein, ils parlent
non, ça c'est Lucas Daunt qui parle français comme ça.
Non, il parle pas.
Comme non, ça. Il parle pas mieux. Il parle pas mieux.
Il a très peu d'accent. Quand même. Il a un petit accent flamand, mais très peu. Oui. Il parle très bien français. Donc voilà, des prix supplémentaires pour Girl et Benoît Deby, bah qui bizarrement n'était pas nommé pour la meilleure photo.
Hein. Non, faudra, Manu d'accord, m'expliquer. Mais bon.
Parce que on parle quand même du meilleur chef-op belge de tous les temps. Je n'ai pas peur de
baisse des mots.
Qui était quand même, enfin il a fait Les Frères Sisters et Climax de Gaspard Noé.
Mais ça ne doit pas être un film un peu produit en Belgique quand même.
Mais je ne sais pas, je pense, parce qu'il y a quand même des films qui ne sont pas forcément produits.
Non, je pense, parce que Laissez bronzer les cadavres, par exemple, c'est un film produit en Belgique.
Alors, je pense que, tu vois, je t'avais dit pendant l'émission que je ne comprenais pas que Girl ne soit pas nommée pour la meilleure musique, mais le compositeur est français. Donc voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas oui. nommé. Bien que, Johan Blanc était nommé pour meilleur acteur dans un second rôle, je pense, ou meilleur acteur.
Oui.
Il est suisse. Hein. Ça fait 20 ans qu'il habite en Belgique, mais il est oui. suisse.
Oui. Donc, il est voilà, dans une série de la RTBF aussi.
Il faudrait lire très attentivement un jour le règlement des Magritte pour savoir exactement comment on est nommable ou pas.
C'est ça.
Mais bon, il y a toujours des petites interrogations comme ça. Donc du coup, je ne comprends pas que Deby ne soit pas nommé pour... ou Climax, ou Les Frères Sisters. Surtout que Les Frères Sisters est une coprode belge, donc voilà.
C'est à ne rien y comprendre.
Pour le coup, oui.
Pour ce coup-là, on va passer un coup de fil. Passons tout de suite au deuxième film de la semaine, Werk on Autor, j'espère que je le dis bien, de Florian Henkel van Donnersmarck.
Je pense qu'on dit Werk on Autor.
Werk on Autor.
Auteur.
Auteur. De Florian Henkel
van Donnersmarck.
Donnersmarck, je vais éviter de prononcer tous les acteurs et actrices de ce film.
Que j'ai interviewé. Mais alors,
pour des raisons évidentes.
J'espère avoir le temps de transcrire cette interview. Mais, ou alors on passe un petit extrait ici. Non, j'ai pas contrôlé la qualité du son. On va dire non.
On verra. S'il y a un extrait maintenant, c'est qu'il y a un extrait. Voilà. Ben non, on sait pas. Je sais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, parlons du film déjà. Commençons par ça. Tu l'as vu à Venise. Un film dramatique d'origine allemande.
Bien vu.
Bien vu, forcément. Mais ça se passe dans quel contexte? Gouvernement communiste, je crois, encore de l'Allemagne de l'Est.
C'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça. Oulala, c'est ouais. parti. Parce que c'est 3h10 de film. Alors là,
3h08, exactement.
C'est le Titanic allemand. C'est parti, je t'écoute.
Alors en fait, c'est un film qui démarre en 37. Donc quand le pouvoir d'Hitler est en train de monter.
Oui. Quand Hitler faisait fureur.
Voilà, c'était donc la dernière émission du Cinécast.
Le Cinécast, bien sûr.
Merci, Guillaume. Et donc, en fait, on suit un petit garçon qui s'appelle Kurt. Enfin, on suit plutôt sa tante, à ce moment-là, qui s'appelle Elisabeth, et qui va se faire embarquer dans un asile, et puis qui va, en gros, se faire lobotomiser, enfin, elle va mourir. Et c'est un drame dans l'enfance du jeune Kurt qui va... Kurt, je ne sais jamais comment on doit dire. Soit, je vais dire Kurt. Non, je vais dire Kurt.
Kurt. À mon avis, hein, dans le film, hein. Je pense que si c'est Florian Henkel van Donnersmarck, c'est sans doute Kurt.
Kurt. Yeah. Et donc, Dash Klein Kurt.
Non, mais attention, parce que j'ai la blague d'Hitler, mais non, on peut plus, voilà, il faut attention, c'est encore ça fait Dash Klein Kurt. Non, c'est pas bon. Mr. Big Moustache. le caporal.
Oui, ça va.
Caporal ouais. Meister. Et oui, c'est le pourri de Thibaut. Ouais, bon, allez, continue.
Les clichés, on l'a.
C'est la grande vadrouille, ça va. C'est pas des clichés, ouais. C'est la grande vadrouille.
Bref. Le jeune Kurt, quand il était jeune, il aimait bien l'art. Mais tu sais qu'à l'époque où Hitler, son pouvoir grimpait, il y a des choses qui étaient permises et d'autres qui n'étaient pas permises. Il y a des choses qui étaient considérées comme
hérétiques. Hitler était un artiste un peu raté aussi, c'était un peu ça son background. Hein. Donc, il avait testé des études d'art.
Il y a pire que ce qu'il faisait, hein. C'était pas dingue. Mais
souvent on dit que son prof d'art aurait mieux fait de lui donner le 10 comme ça, il aurait fait autre chose de sa vie.
Écoute, j'ai déjà vu bien pire que ça dans des musées.
Oui,
je pense que t'as déjà vu les peintures d'Hitler, mais il y a pire.
Oh, non, honnêtement, je ne vais pas voir un musée avec les peintures.
Je ne mettrais pas sa croûte sur mon mur, mais il y a pire.
Bon, s'il était au conservatoire, c'est qu'il n'est pas nul.
Non, il n'était pas, pas nul. Voilà, il avait un peu de talent quand même, Hitler. Faut dire ce qu'il est. Même si, je te répète, je ne les accrocherai pas sur mon mur. Par contre, dans une maison de vieux, ça pourrait cadrer. Soit.
T'as quand même dit, il avait un peu de talent, Hitler. Donc, si quelqu'un coupe cette section audio.
Sorti de son contexte, ça,
sorti de son contexte, ça peut être sympa, oui. Bon, allez, on continue.
Bref. Mais ça va être compliqué de parler de ce film. Enfin, compliqué, parce que ça parle de beaucoup de choses.
J'ai cru comprendre.
Bref, son enfance, sa tante qui meurt, etc. Et puis il y a un cut et on arrive quelques années plus tard, pendant la guerre. Enfin, en fait, c'est pendant la guerre qu'elle va mourir, je pense, la tante. Et puis en fait, le film va continuer pendant des années et des années et des années. Donc l'évolution du personnage, elle est sur 30 ans, quelque chose comme ça. Ou pas loin en tout cas.
Ok.
Donc forcément, après la guerre, il y a les deux blocs, Est-Ouest. Lui, il va rentrer dans une école d'art. Il va commencer à faire de la peinture, des fresques murales. Mais tu sais, dans le cadre, il est en Allemagne de l'Est. Mmh. Donc, idéologie communiste, etc. Tout n'est pas permis non plus. C'est pas parce que Hitler a été battu que tout d'un coup, c'est la grande joie.
Liberté d'expression.
Toute la liberté, etc. Donc, il va lui-même être cadenassé dans ce qu'il veut faire. Et il va tomber amoureux d'une jeune fille qui va rapidement se mettre en couple. Et son père, le docteur Siband, est un docteur somme toute respectable de la région. Et ce qu'il va découvrir, mais là je te parle, on est déjà bien à une heure de film, hein, okay. Mais je pense qu'il faut le mentionner quand même au moins dans le synopsis, parce que sinon ça devient long. C'est que le docteur Siband, en fait, était l'officier qui gérait l'asile dans lequel la tante de Kurt est décédée. Enfin, a été assassinée.
Ok, un peu responsable, voilà. D'une manière ou d'une autre.
Donc, c'est une espèce de triangle, dans le sens où on a un jeune qui va essayer de pouvoir vivre sa vie d'artiste comme il l'entend, qui va essayer de trouver sa voie en tant qu'artiste. Il y a sa relation de couple avec sa jeune amie, et puis il y a cette relation avec son beau-père qui ne va pas être facile, parce que forcément on est encore dans les années 50-60, fin des années 50, début 60 à mon avis, où
ce n'est pas encore une jeunesse,
c'est encore assez protecteur, etc. Ça va pas être facile. Mais en tant que spectateur, on sait que le docteur Siband est le meurtrier, en tout cas un instigateur de la mort de la tante de Kurt, mais Kurt ne le sait pas forcément.
Donc ça va péter à un moment donné.
Et je sais pas si je peux le dire ou pas, mais je trouve que c'est une des choses très intelligentes du film, c'est que pas que les deux ne sachent jamais ce qui va se passer, mais pendant très longtemps en tout cas, Il y a cette... on va dire qu'ils vont...
Une sorte de conflit un peu invisible comme ça.
C'est ça. C'est pas évident. C'est pas genre... Ah mais oui, c'est le gars qui tenait, qui était responsable de l'asile pendant quand ma tante est morte. Et pour lui, le docteur Siband, inversement, il sait pas forcément que le jeune Kurt, il a tué sa tante.
Ouais.
Donc il y a un truc comme ça un peu...
un non-dit, quoi.
Un non-dit qui va évoluer, sinon le film est pas intéressant. Mais je trouve que c'est traité de manière très intelligente, très intéressante, et ça rend le film passionnant alors qu'il dure 3h08.
D'accord.
C'est énorme. Alors je peux dire que c'était une journée costaud à Venise, parce que j'ai commencé par ce film-là à 7h30 du mat ou à 8h, je ne sais plus. Déjà costaud. J'ai enchaîné avec un film qui faisait 1h50 et quelques. C'était le plus court de la journée, hein. Parce qu'ensuite j'ai encore eu un film de 2h20 et puis un autre de 2h50. Grosse journée. Et vraiment, il y a des films, parfois, ils peuvent durer 1h30, t'as l'impression que c'est interminable. Ici, 3h08, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que ça raconte énormément de choses. Je vais pas tout développer ici, parce que je trouve que c'est un film pour lequel il faut y aller. On peut savoir des choses, mais c'est bien d'avoir une certaine fraîcheur et de pas tout savoir, parce que
d'ailleurs, si, oui.
Avant d'y aller, parce que c'est très riche. Il y a un contexte, enfin plusieurs contextes historiques qui sont hyper intéressants et traités de manière très intelligente.
Oui.
Il y a cette histoire d'amour qui est intéressante aussi. C'est pas une simple histoire d'amour comme on a pu en voir énormément. Il y a aussi des relations un peu conflictuelles. Et donc tout ça, avec le contexte historique et forcément le contexte, le rapport qu'il y a entre le docteur Siband, Kurt, etc. Tout ça, je trouve que ça donne énormément de richesse au film. C'est super bien filmé. Florian Kjell von Donnersmarck, pour rappel, il avait réalisé le film La vie des autres,
ah oui,
qui traitait de
excellent film,
un agent de la Stasi, hein.
Tout à fait.
Et donc il aime vraiment bien parler de l'histoire de l'Allemagne. Et ici, à nouveau, c'est hyper bien traité. Il y a vraiment une richesse au niveau historique.
Oui.
Et il y a des plans assez incroyables parce qu'il est question d'art, donc il y a moyen de faire des choses visuellement, oui, très intéressantes, notamment au moment où Kurt essaie de se découvrir et de savoir quelle est sa, mmh, voix, parce que c'est pas tout de se dire voilà, je suis artiste et tu peins. En fait, peut-être que juste peindre des trucs normaux,
oui,
peut-être juste des peintures mortes, c'est pas ton truc. Peut-être que peindre des paysages, c'est peut-être pas ton truc non plus. Peut-être que peindre, c'est pas ton truc.
Okay.
Donc il va vraiment se chercher en tant qu'artiste. Et il y a des plans très ingénieux avec des fenêtres, des volets, etc. Il va, d'accord, y avoir des jeux de lumière qui ont, enfin voilà, une scène en particulier,
pas mal,
très très bien filmé, très bien traité, qui rend le tout assez passionnant. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la musique du film, qui était composée par Max Richter, qu'on ne présente plus, je pense, la, oui, star anglo-allemande, je ne sais pas si on dit comme ça.
Oui.
Voilà, qui a fait d'excellentes musiques de films. Hostiles, The Leftovers.
Ah oui, quand même, Hostiles.
Il a fait vraiment des bandes originales magnifiques.
Particulières, avec chaque fois hein, quelque chose de distinctif. Hein.
Donc, ouais. Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vivement d'écouter sa recomposition des 4 saisons de Vivaldi. Ça dure une quarantaine de minutes. Hein. C'est fabuleux. J'adore écouter ça quand j'écris, par exemple.
C'est génial, du coup.
Voilà, Max Richter, c'était un excellent compositeur.
C'était la petite découverte. Alors forcément, c'est sans doute le film allemand de l'année.
Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit.
Il représente
l'Allemagne aux Oscars.
Aux Oscars, donc voilà, c'est pas rien. Ouais. C'est clairement du lourd.
Dernière chose, le casting. Tom Schilling qui incarne Kurt, il est génial. Il a un regard de malade, un regard bleu,
il
hyper
a une gueule,
perçant,
oui,
ouais, c'est hypnotique presque. Et on l'a vu notamment dans Sud Française et surtout dans Oh Boy, qui avait pas mal cartonné, oui, quelques années. Celle qui joue sa compagne, c'est Paula Baer, qu'on a vu dans France de François Ozon, pardon.
Oui.
Et le docteur Siband, c'est Sébastien Koch, qu'on a vu dans une saison d'Homeland, qui jouait dans Bridge of Spies aussi de Steven Spielberg. Donc, le pont des espions.
Des gens qui ont du métier.
Un grand acteur allemand que j'aime beaucoup et qui était déjà aussi dans La vie des autres aussi. Donc,
ça sent très bon le 4 étoiles ce que tu es en train de dire.
Werk ohne Hauteur, Never Look Away en anglais. Alors, je ne sais pas sous quel titre il va sortir en français.
Le destin d'une famille.
Si la traduction pardon, est littérale,
oui,
c'est une œuvre sans auteur. Hein. C'est ça que ça veut dire. Werk
ohne Hauteur. Comme titre en français, c'est pas.
C'est sympa.
C'est pas nul.
Donc, c'est une. Une très belle romance avec un contexte historique passionnant.
Laisse-moi te dire, 1, 2, 3, 4 étoiles.
Allez, 4.
4 étoiles.
Soyons fous.
Boom.
Soyons fous.
Est-ce que c'est le film de la semaine ? Ça, on ne sait pas encore. On passe un peu, petit coup sur les news. Il y a eu pas mal de choses hein, ces derniers temps. Bon, forcément, il y a eu le Super Bowl, donc il y a eu plein de bandes annonces. Mais vous savez, on n'aime pas spoiler, donc on n'a pas spécialement parcouru tout ça. Mais on vous encourage à le faire si vous aimez ces morceaux de marketing bien pensés. Par contre, il y a eu pas mal de news, je le disais. La première news qui est assez étonnante, c'est que Peter Jackson se penche sur les Beatles pour un nouveau documentaire. Il va s'attaquer en effet à la réalisation d'un documentaire sur la session d'enregistrement du mythique album Let It Be des Beatles. J'ai envie de dire rien que ça. Sachant également qu'il travaille avec notre ami Steven sur le prochain volet de Tintin. Bon, ça pue un peu hein, s'il
non,
fait ça.
Il travaille toujours pas sur Tintin.
Voilà, s'il annonce son petit documentaire sur les Beatles, ça sent un peu mauvais.
Non, il ne travaille pas sur Tintin, ça c'est sûr.
Là, je pense pas qu'il travaille sur Tintin, mais non, tout à fait. Donc bon, on a hâte de voir ce que ça donne. Peut-être qu'il surfe un peu sur la vague des sortes de biopics pour l'instant qui fonctionnent plutôt pas mal. On l'a vu avec Bohemian Rhapsody l'année passée. Autre nouvelle. Dune, hein, le prochain film, de Denis Villeneuve, qui sera un reboot. On savait déjà que dans le film, il y allait avoir Timothée Chalamet, qu'on ne présente plus, hein, qui est partout.
Il reste, hein.
Et le reste, bien sûr, mais en tout cas, c'était...
Vas-y. Timothée Chalamet,
mm-hmm.
Rebecca Ferguson,
okay.
Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling,
D'accord.
Alors là, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté la liste, mais il y a aussi Dave Bautista.
D'accord.
Et là, qu'on apprend.
Quelqu'un vient se greffer sur le projet. Hein. Quelqu'un qui aime bien aller se greffer sur des projets d'envergure. Oscar Isaac, ouais. Qui entre deux prises dans le prochain Star Wars, va travailler sur Dune. Rien que ça. Décidément, Denis Villeneuve n'a peur de rien. Après avoir fait une suite à Blade Runner,
ouais.
Un reboot de Dune, il aurait pu aller dans un truc plus facile. Quand
là,
même.
Il est hyper occupé par le film, évidemment, par la pré-production. Donc,
clairement. On sait également, en termes de tournage, que Christopher Nolan a un film dans les cartons.
Oui, il a un projet encore qui va filmer
ouais,
en IMAX.
Ça sort en été 2021,
mais,
je pense.
On n'en sait pas plus.
Été 2021, mais on ne sait pas concrètement de quoi il s'agit, mais... C'est bien, ça fait plaisir de voir qu'il bosse et qu'il va se passer quelque chose avec Christopher Nolan parce qu'on attend toujours une sortie de Christopher Nolan.
On sait aussi que Netflix va sortir un autre, parce que tu parlais de Peter Jackson et des Beatles.
Oui.
Netflix va sortir un autre documentaire.
Sur David Bowie, non ?
Sur. Alors de Martin Scorsese.
D'accord.
Sur. Et là que j'ai commencé ma news et puis que je ne sais
parce
plus.
Que je t'ai
sur
quel, avec David Bowie, mais.
Je ne sais plus sur quel artiste.
En tout cas, moi, j'ai vu quelque part qu'ils allaient faire un documentaire, un biopic sur David Bowie, sans avoir les droits de David Bowie, ce qui va être pas facile, ça, quand même. Donc, ils pourront pas passer de chanson. Ça,
oui,
ça.
J'ai vu que... Ah oui, c'est sur Bob Dylan,
d'accord.
Le docu de Scorsese. Mais j'ai vu que Duncan Jones, le fils de Bowie, préférait faire un autre film que ça. Enfin, il veut pas le réaliser, mais il aimerait bien qu'il y ait un autre projet qui se fasse.
D'accord.
J'ai vu ça sur Twitter et il citait d'autres personnes. Il me disait, j'aimerais bien que ce soit toi qui le fasse et tout. Voilà. Bon.
Écoute, je suis disponible si tu veux.
Puis un petit peu. Mais effectivement, je préférerais peut-être que Duncan Jones s'occupe d'un autre projet.
Bah oui, écoute.
On verra bien.
On verra bien. Il y a pas mal de nouvelles, hein. Je sais que, parce qu'on va passer maintenant à l'univers un peu DC Comics, n'est-ce pas? Puisque Batman a une nouvelle date de sortie, mais surtout, le plus important, c'est que Matt Reeves va changer de personnage pour Batman. Ce n'est plus Ben Affleck qui va incarner l'homme chauve-souris, ce sera quelqu'un d'autre. Alors qui? La liste de prétendants est très très longue, ça va vraiment à tous les sens, hein, cette liste. Il y a des acteurs, bah voilà, Jake Gyllenhaal par exemple est mentionné. Je pense pas parce qu'il vient de s'engager dans l'univers Marvel, donc ça va être compliqué à mon avis de combiner les deux, même si son rôle dans Spider-Man n'a pas l'air d'être très conséquent. Il y avait qui d'autre sur la liste maintenant que j'oublie. Je sais que j'ai vu que Michael B. Jordan est en discussion, mais alors là, mais c'est pour un Batman un peu inédit. John Hamm. Pourquoi pas?
C'est vrai que John Hamm est un nom qui a beaucoup circulé pour pas mal de rôles. Hein. James Bond aussi, à une certaine époque, il était parmi les prétendants. Batman, ici, ça me surprend pas.
Donc... Armie Hammer aussi, était mentionné.
Oh, non.
Ouais, ouais, enfin, tout à fait.
J'aime bien Armie Hammer, mais là, pour Batman, vraiment.
Donc voilà. Pas mal de noms circulent. Non. On en sera plus prochainement, puisque le film est en préparation, donc il faut qu'il fasse un casting éclair.
En tout cas, ça sortira le 25 juin 2021.
Voilà.
The Batman. Par Matt Reeves.
Quelques semaines avant le prochain film de Christopher Nolan qui sort, comme d'habitude, presque le jour de mon anniversaire, le 17 juillet. À chaque fois, il prend la date de mon anniversaire pour sortir un film, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, grosse info. Vous saviez, peut-être que vous ne savez pas, mais Gardien des Galaxies, il y a eu des problèmes.
Ah oui,
James
oui.
Gunn qui avait fait 2-3 tweets un peu sympathiques. Il y a longtemps, James Gunn. Il y a quelques années, il a fait des tweets mal placés. Bon,
des blagues,
un peu comme Kevin Hart a fait des blagues il y a 8 ans. Voilà, c'est pas très fin, c'est ressorti de la surface, il s'est fait entre guillemets virer de Marvel.
Pas entre guillemets, hein, il s'est fait virer.
Du coup, tous les studios sont venus chez lui en mode « tu veux pas venir chez nous, t'inquiète pas, un petit projet, tu fais ce que tu veux. » Concrètement, tu fais ce que tu veux. Et il a été approché par Warner Bros. Il leur a dit « Écoutez-moi, très concrètement, ça m'intéresse pas de faire le prochain Wonder Woman, de toute façon, je crois pas que vous avez besoin de moi pour ça. » Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de reprendre la franchise Suicide Squad. Et ça se comprend, hein, vu l'univers de James Gunn, qui a son truc un peu décalé ou quoi, il pourrait vraiment faire quelque chose avec. Par contre, il veut faire un recasting de pas mal de personnages. C'est ce qu'il avait mis à la direction, donc je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va prendre le projet Suicide Squad 2 en main.
Wait and see.
Pourquoi pas. Ça va être difficile en tout cas de recaster Margot Robbie en Harley Quinn. Ça, je pense qu'il va être obligé de le faire. Hein.
Surtout qu'il y a déjà l'autre film qui est en cours.
Oui. On a fait d'ailleurs un mini teaser au Super Bowl, mais rien de très, très concret pour ce film-là d'Harley Quinn. Et dernière nouvelle qui vient toujours des États-Unis pour pas changer l'équipe qui gagne. Fast and Furious 9 parce qu'on sait qu'il y a la bande-annonce de Hobbs & Shaw qui vient de sortir un peu partout sur le web, qui fait un tabac d'ailleurs. Et à raison, on peut comprendre hein, The Rock et Jason Statham qui font des conneries, ça fait toujours plaisir à voir, c'est le bon vieux film popcorn de l'été. Et donc là, il y aura aussi Fast 9 avec Vin Diesel, mais sans Dwayne Johnson qui dit qu'il ne sera pas là. Peut-être qu'il reviendra plus tard pour affronter...
Dans le 10, hein.
Dans le 10, oui, c'est ça.
Parce que, comme il dit, Hobbs et Dom ont encore des choses à régler.
Des choses à dire, mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans les coulisses, il paraît que ça s'est pas du tout bien passé sur le tournage de Fast 8, du coup. Les deux hommes en avaient un peu ras-le-bol l'un de l'autre, puisqu'on sait, hein, en ayant vu deux, trois documentaires, notamment Fucking Kassovitz, excellent documentaire, que Vin Diesel n'est pas l'acteur le plus facile sur un plateau de tournage.
Ouais, effectivement.
Et quand on sait par contre que The Rock est quelqu'un de très accessible, en tout cas, c'est ce qu'on entend de lui, bah, ça peut être un peu la rivalité. Surtout qu'il faut dire que la franchise se porte beaucoup mieux depuis que The Rock est là. Et donc, je suis pas sûr que Vin Diesel est content de ce genre de choses.
Fast Five, est un chef-d'œuvre.
Voilà. Donc, ça doit faire pas plaisir.
J'exagère un peu, mais c'est un gros plaisir.
C'est un gros plaisir coupable.
Oh, pas si coupable que ça.
C'est meilleur que les films de Gerard Butler, ça c'est sûr. Bon.
Dernier film,
tout à fait. Alors que je constate que je me suis trompé dans le titre du dernier film, forcément. Mais c'est pas grave. Can You Ever Forgive Me? Film de Marielle Heller, avec Melissa McCarthy, je le disais en introduction. Melissa McCarthy, si vous voyez un peu qui c'est cette actrice légèrement en surpoids, on peut le dire, américaine, qui joue dans beaucoup beaucoup de films où elle a le rôle de la fille qui, entre guillemets, elle pète, elle rote et elle fait des bêtises, hein, c'est un peu ça, très humour, pipi, caca.
C'est ça.
C'est vraiment ça. Et donc elle s'est fait connaître, notamment, je pense, c'était dans Mes Meilleurs Amis, où elle a eu un rôle de nouveau de la, bah, justement, une meilleure amie un peu pipi, caca. Et là, elle fait un film sérieux, un film dramatique, basé sur une histoire vraie, qui raconte l'histoire d'une écrivaine qui s'appelle Lee Israel, qui a été dans le New York Times best-selling author pour une biographie qu'elle a écrite de quelqu'un, alors là, peu connu. Mais en tout cas, dans le monde de l'université, on lit ses bouquins. Mais c'est vrai que bon, c'est pas J.K. Rowling, quoi. Et au fur et à mesure des années, ben, sa maison d'édition n'a plus vraiment envie d'avancer des projets, n'a plus envie de la payer, enfin... Elle vit dans son appartement avec des caca de chat, quoi. Voilà, vous voyez l'exemple. Et donc, du coup, bah, elle veut trouver de l'argent, quoi. Hein. Donc, elle boit beaucoup, elle est un peu dans la misère. Et elle va revendre des vieilles lettres qu'elle a chez elle, des lettres qu'elle a collectionnées d'auteurs américains. Tu sais, des lettres qui ne disent pas grand-chose, genre « Je viendrai chez toi la semaine prochaine, te voir, ma belle. » Enfin, des lettres un peu comme ça, un peu plan-plan. Et donc, elle va vendre ses lettres. Elle voit que ça se vend 75$, 100$, 150$. Et donc, elle se dit « Tiens, il y a un business à se faire là-dedans. » Surtout si je prends ma plume et que je rajoute deux trois lignes à la lettre pour la rendre un peu plus sympa. Donc elle va rajouter un petit PS à gauche, un petit mot doux au verso d'une lettre, donc pour pimenter tout ça et faire en fait de la fantaisie avec des vieilles lettres qui vont du coup se vendre 600, 700, 800, 1000 dollars. Et donc elle va vraiment gagner sa vie en faisant ça. Ça va lui la rebooster parce qu'elle va vraiment prendre un grand plaisir à se plonger dans la vie des anciens auteurs. Payer son loyer et autres. Et elle va faire des rencontres, notamment avec un personnage incarné par Richard E. Grant, qui est un sans-abri homosexuel qui squatte un peu, qui a compris la bonne affaire, hein, qui a compris qu'il fallait rester près d'elle. Et bah, un jour, il va arriver ce qui devait arriver. Le FBI va s'en mêler et va se rendre compte qu'il y a des problèmes, que c'est pas normal ces lettres, parce que les proches de la famille d'eux déclarent qu'il n'aurait jamais fait ça parce que pour telle raison. Et donc, ils vont lui tomber dessus à cette fameuse Lee Israel et elle va être confrontée à son mensonge. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle a menti? Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça?
Ouais.
Et c'est là que le film, du coup, prend ce côté dramatique. C'est déjà dramatique dès le départ. Il n'y a pas beaucoup d'humour, hein, qu'on se le dise.
Ouais.
Et donc, c'est assez déconcertant parce qu'on s'attendait à un truc un peu plus comique de la part de Melissa McCarthy, mais pas du tout. Elle nous fait un drame qui est très classique. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Je crois que vous avez déjà compris le film quand je vous l'ai raconté. Mais c'est assez surprenant de la voir dans ce registre-là. Elle est très convaincante en dame un peu plus âgée qui est complètement défacée de la société, qui a connu son moment de gloire et qui maintenant aujourd'hui est obligée de faire un peu de s'humilier, quoi. Et donc c'est pour ça que je comprends qu'elle est nommée. Je crois qu'elle était nommée aux Golden Globes.
Oui.
Peut-être même aux Oscars, je pense.
Oui, voilà. Donc... Elle est nommée aux Oscars.
Ça, je peux
comme
comprendre.
Comme son acolyte, dont j'oublie toujours le nom.
Richard E. Grant.
Richard E. Grant, merci.
Oui, qui est assez convaincant aussi. Mais donc oui,
c'est aussi nommé oui, tous les deux.
Je peux comprendre honnêtement qu'elle soit nommée parce que c'est assez convaincant, ça fait plaisir de la voir dans un autre registre et elle le fait très bien, donc mais pour moi c'est le point fort du film. Voilà, le reste je vous l'expliquais, c'est très classique dans sa mise en scène, dans n'importe quoi, il y a pas vraiment d'ambition, chant contre chant, elle écrit dans sa chambre, elle ramasse des cacachas et voilà, enfin c'est il se passe pas grand-chose de dingue. Ouais. Et l'histoire est pas non plus folle. Enfin, elle modifie quelques lettres et puis elle se fait avoir par le FBI concrètement. Mais c'est pas un truc à la Loot Wall Street où on se rend compte qu'elle en a pour 20 ans de prison. Quoi. C'est, ouais. C'est pas ce genre de truc là. Quoi.
Je suis assez curieux de voir le film parce que j'avais adoré le premier film de Maria Lehler qui s'appelait The Diary of a Teenage Girl.
D'accord.
C'était un très chouette film très typé Sundance. Hein. Mm-hmm. Premier film indépendant. Il y avait Alexander Skarsgård au casting. D'ailleurs,
d'accord.
On avait une interview d'Alexander Skarsgård à l'époque. Donc voilà, du coup, ça fait un moment que j'avais envie de voir son deuxième film. Et elle a déjà terminé le troisième, où elle est en post-prod du troisième. C'est un film qui s'appelle A Beautiful Day in the Neighborhood avec Tom Hanks,
okay.
Qui va jouer Mike Rogers, une star de la télé américaine, et sa relation avec un autre journaliste. Pas relation amoureuse, hein, mais... enfin voilà, donc là, c'est... projet assez curieux aussi.
Mais elle aime bien, je pense, cet univers des écrivains, de la presse, etc., ou des médias, de la... Enfin, c'est clair qu'on voit qu'il y a une certaine reconstitution de ce milieu-là, un peu académique et tout, parce qu'on est vraiment là-dedans. Du coup, c'est une société new-yorkaise très huppée, hein, qui collectionne des... Enfin, pour collectionner des vieilles lettres d'auteurs américains, il faut quand même être dans une certaine couche de la société. Et avoir des références à des livres qu'on nous on ne connaît pas en Europe parce que c'est des classiques américains. Mmh. Donc voilà, c'est un peu un film. C'est gentil, c'est pas du tout tirer l'arme ou quoi que ce soit. C'est dramatique quand il faut, mais c'est pas surprenant honnêtement. La seule chose qui m'a vraiment surpris, c'est Melissa McCarthy qui épate et on a envie de lui dire écoute, ben continue, fais peut-être autre chose. Un peu comme Steve Carell avait commencé à faire 2-3 films dramatiques à l'époque et maintenant c'est devenu carrément une de ses spécialités avec la comédie, eh ben on a envie de dire à Melissa McCarthy, ben pourquoi pas, fais pareil, si ça te réussit comme ça, on en demande encore.
Eh ben.
Pour moi, c'est 2 étoiles, mais pas plus. 2 étoiles pour Melissa.
Ça donne quand même envie.
Voilà.
Je suis assez...
Si vous êtes curieux de voir comment
je
Melissa...
Je suis toujours aussi curieux de voir le film.
Ben oui, honnêtement. Et tu comprendras certaines... Enfin, j'espère que tu comprendras mon avis en voyant le film. Peut-être que tu vas pas être d'accord. C'est ça aussi la beauté du cinéma.
Écoute, si j'ai le temps d'aller le voir, je n'y manquerai pas.
Si tu as le temps d'aller le voir, exactement.
Le temps me manque.
Si je me rappelle bien, il y avait encore un dernier film dont tu pouvais parler, mais brièvement.
Non, mais j'en ai trop peu de souvenirs et honnêtement, j'avais pas beaucoup aimé, donc je vais éviter d'en parler.
Alors peut-être par contre uniquement les sorties de la semaine, comme à notre habitude, en fin d'émission. Escape Game, et non pas Escape Room, dans ce cas-ci. C'était 1 étoile pour ce film à l'assaut, à la cube, entre guillemets, mais sans être trop dans le trash non plus. C'est quand même interdit au moins de 16 ans en Belgique.
Oui,
ce n'est pas toujours le cas.
Il y a un peu de sang, voilà, c'est assez généreux. Mais
faut ce qu'il faut.
C'est pas... Hein, y a pire.
Deuxième film, Seul à mon mariage.
Voilà, c'est le film que j'ai vu, mais je l'ai vu
les bains.
Fin avril dernier, au début du mois de mai.
Waouh.
Donc, je l'ai vu à Cannes, un peu avant Cannes, pardon. Il était à Cannes, présenté en première mondiale, à l'Acide, je pense. Et oui, c'est un premier film belge, donc vraiment, j'ai pas, dans mon souvenir, j'ai pas beaucoup aimé. Même si il y a d'évidentes qualités dans le film, mais vraiment voilà, je vais pas insister parce que
ouais.
Mon souvenir n'est plus très frais et ce serait pas correct de ma part d'en dire beaucoup plus alors que je n'en ai plus beaucoup de souvenirs.
Work on a Hotter, ça c'était le film dont on a parlé, le fameux 4 étoiles de la semaine.
Ouais.
Excellent film allemand du réalisateur du
La vie des autres.
La vie des autres, pas Le goût des autres, c'est un autre film.
Non.
Free Solo, un documentaire américain.
Qui
est nommé à l'Oscar, tout à fait.
Ouais, et qui apparemment est super bien. Parce qu'il suit un gars qui va monter El Capitan, le fameux massif rocheux du parc Yosemite.
D'accord.
Et ou Yellowstone, je ne sais plus. Yosemite, je pense.
Un des parcs costés, quoi.
Et donc, Free Solo, en fait, c'est c'est de l'escalade, mais t'as pas d'armes, ouais. T'as rien.
C'est seul sans rien, quoi.
C'est, voilà, c'est ta main, tes pieds, et voilà, et tu montes. Et donc le film suit un gars qui va grimper, qui a grimpé à peu près tous les grands trucs.
Oui, oui, forcément, je pense qu'il n'est pas à son premier truc.
C'est un peu son défi ultime, c'est un peu son rêve, grimper El Capitan. Et voilà, ça sort dans très peu de salles, je pense, ici, mais apparemment, ça vaut la peine.
Can You Ever Forgive Me? On vient d'en parler avec de Marielle Heller, avec Melissa McCarthy et Richard E. Grant. Bah, 2 étoiles, c'était un drame tout à fait acceptable. Mais la petite surprise, Melissa McCarthy en plus.
Ouais.
Et enfin, Une Intime Conviction de Antoine Rimbaud avec Marina Foïs et Olivier Gourmet.
Ouais. En fait, Marina Foïs incarne une dame qui est convaincue de l'innocence d'une personne lors d'un procès, et elle va engager un avocat pour un second procès.
D'accord.
Voilà. Parce que voilà. Elle veut sauver ce monsieur ou cette personne. Voilà, j'ai pas vu le film, donc je vais pas m'en
sortir
plus. Mais globalement, c'est ça le synopsis.
Et je pense que bon, ça sort pas au cinéma, mais il y a une sortie Netflix également cette semaine, Velvet Buzzsaw. Je crois qu'il est déjà sorti depuis 2-3 jours.
Velvet Buzzsaw est sorti, je sais plus quand, vendredi ou samedi. C'est le nouveau film de Dan Gilroy qui avait fait Nightcrawler, enfin appelé Nightcall en France. Alors que Nightcrawler, c'est quand même un peu beaucoup mieux. Avec Jake Gyllenhaal qui jouait un gars qui aimait bien.
Un paradis en fait, hein.
Ouais, tu sais, c'est pas
Channel News, oui, c'est ça.
Ouais, les gars qui vont faire les accidents de la route, ouais, c'est la nuit. Il y a un docu là-dessus, d'ailleurs, une série de docu sur Netflix qui parle de ça. Je sais plus du tout le titre, mais c'est assez. En fait, c'est passionnant et flippant à la fois de voir ces types-là. Bref, nouveau film de Dan Gilroy, toujours avec Jake Gyllenhaal, qui explore ici le monde de l'art. Et Jay Gyllenhaal incarne un critique d'art.
Il y a un petit spin quand même dans le film. Hein. C'est le monde de l'art, mais à un moment donné.
Ouais, c'est fantastique en fait. Hein.
Ouais.
C'est très étrange comme film. D'ailleurs, c'est pas ouf, mais c'est très particulier. Ça m'a pas du tout convaincu. J'étais assez déçu par rapport à Nightcrawler. Donc voilà, un peu circonspect. Il y a des idées intéressantes, mais c'est parfois ça va peut-être un peu trop loin. En tout cas, ça dans un délire auquel je m'attendais pas vraiment et qui m'a pas intéressé plus que ça. Et il y a un autre film qui était sorti sur Netflix il y a un petit temps maintenant, une semaine ou deux, qui s'appelle Polar, avec Mads Mikkelsen, où il incarne un tueur à gages à la retraite qui va se faire traquer par son ancien employeur. C'est génial. Voilà.
Ça, c'est génial.
Il me reste
ça a rien à voir avec Artic, en fait. Hein,
ah non, rien à voir.
Okay,
il me reste quelques minutes de film à regarder, parce que j'ai pas eu le temps de terminer hier, mais c'est génial. Il y a plein de morts, plein de sang, c'est cool.
Ok, c'est un Liam Neeson movie ou c'est un peu plus
ouais,
trash.
Mais c'est un peu plus décalé.
Okay.
Il se prend moins au sérieux, donc c'est
drôle.
Plus
à John Wick.
Ouais,
un peu plus.
C'est ça.
Un mélange entre Liam Neeson et John Wick, en gros du plaisir coupable.
Complètement.
Voilà. Ben c'était un peu tout pour cette semaine. Hein. Je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine, bien sûr.
Oui.
La semaine prochaine, on vous parlera entre autres. Ben le programme de la semaine prochaine.
Ouf.
Il est solide. très solide.
Il y a un chef-d'œuvre. Heureusement.
Oui.
Et
je pense que c'est Beale Street, hein. On peut le dire.
Oui. If Beale Street Could Talk.
If Beale Street Could Talk.
On en a déjà parlé un petit peu.
On en parlera la semaine prochaine.
Normalement, on vous parlera de All Inclusive aussi.
Ah oui, non, ça c'est sûr qu'on vous en parlera.
Et si j'ai le temps de les rattraper, parce que je sais qu'ils passent en avant-première UGC dimanche, etc.
Ah oui.
Nicky Larson et Alita Battle Angel.
Tout à fait. De Robert Rodriguez, hein, un film qui avait été produit par
James Cameron.
James Cameron, pas Peter Jackson. Rien que ça. Donc voilà.
Donc une semaine, c'est un peu plus éclectique.
À la semaine prochaine, c'est plus populaire. Ça, c'est clair que là, Nicky Larson, All Inclusive, Alita,
Et un chef-d'œuvre.
Et un chef-d'œuvre.
If Beale Street Could Talk. Ce sera déjà notre film de la semaine. Notez-le.
Oui, il y a des chances que ce soit lié. À part si on change d'humeur entre temps, mais j'aurai plein de choses
à vous dire sur If Beale Street Could Talk.
Et moi, sur All Inclusive. Ne vous inquiétez pas. On se dit du coup à la semaine prochaine.
Et on vous fait des gros bisous.
Bisous, ciao.